grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Fruits, légumes, lait, œufs, viande, pâtes, riz, charcuterie ou encore chocolat, les Français avalent de plus en plus de bio. 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé bio au moins une fois en 2018. Face à cette forte demande, les grandes surfaces et les magasins spécialisés peinent à faire face et sont contraintes d'importer hors de notre pays près d'un tiers de produits alimentaires estampillés AB. Dans ce contexte, comment acheter bio en toute confiance au juste prix? Les produits bio-industriels valent-ils vraiment le coup? Faut-il par exemple acheter des céréales du petit-déjeuner ultra-transformées, vendues par des grandes marques et qui arborent la formule magique issue de l'agriculture biologique? Faut-il acheter des pommes bio-importées d'Espagne ou plutôt des golden limousines issues d'un verger conventionnel, du jambon conventionnel sans nitrite ou du bio avec nitrite? Faut-il éviter les produits bio vendus en hypermarché? Élément de réponse ce matin avec l'écrivain journaliste Frédéric Danhé, Christelle Pangrazi de 60 millions de consommateurs et le journaliste Guillaume Coudray. Et vous, faites-vous confiance au bio? Avez-vous peur des dérives de ce secteur? Dans quel type de magasin achetez-vous vos produits bio? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Tout à l'heure, dans votre petite philosophie de la vie quotidienne, vous poserez la question du juste prix d'un produit.
Ben oui, parce que c'est bien de vouloir avoir des produits de bonne qualité, encore faut-il qu'ils soient au bon prix, au juste prix ou au prix juste. Qu'est-ce que c'est qu'un prix juste? Est-ce qu'on peut le définir? Voilà, on y pense tout à l'heure.
À tout à l'heure Thibaut de Saint-Maurice, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Olivier.
Vous êtes ingénieur, écologue de formation, conférencier, écrivain, journaliste et vous publiez chez Albin Michel « Acheter bio, à qui faire confiance ». Bonjour Christelle Pangrazi.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe des hors-séries de 60 millions de consommateurs. Le tout nouveau hors-série est intitulé « Maison saine, nettoyée, sans polluer ». Et au téléphone, nous aurons tout à l'heure Guillaume Coudray, journaliste qui avait publié une enquête très remarquée sur la charcuterie industrielle et qui s'intitule « Cochonnerie ». Alors, Frédéric Danhé, Manger est devenu de plus en plus compliqué. Nous scrutons attentivement les étiquettes, nous dégainons l'appli Yuka pour scanner les produits et vérifier le diététiquement correct, à juste titre d'ailleurs, et nous nous ruons massivement vers le bio pour nous tranquilliser. Pour beaucoup, bio rime avec bien manger, et bien manger c'est avoir confiance dans le bio.
Oui, c'est un peu ça, c'est le serpent qui se mord la queue. On a tellement plus confiance en rien dans le système alimentaire qui est devenu tellement opaque qu'on se réfère vers des bâtons totems autour desquels nous tournons, en particulier l'eau bio, autour duquel nous psalmodions plein de demandes, nous plaquons, nous projetons toutes nos névroses, tous nos manques, toutes nos frustrations. Donc on veut que le bio soit bon pour la planète, on veut qu'il soit bon pour notre corps, qu'il soit bon pour les paysans, qu'il soit bon pour tout. On lui en demande un peu trop. Le bio est une sacrée évolution quand même. Mais c'est pas le plus vertueux qui soit. En fait, c'est juste le signe que on n'a plus confiance en rien et que comme on est dans une culture très manichéenne, on plaque sur le bio ce qu'on ne trouve pas sur l'agriculture conventionnelle. Donc puisque l'agriculture conventionnelle a été déclarée comme malfaisante, comme maléfique, forcément le bio est pur et nous sommes en quête de pureté dans ce monde qui semble nous salir tellement le bio n'a pas apporté tout ça.
Alors selon l'agence Bio, 6 Français sur 10 ont une confiance mitigée dans les informations fournies sur les produits biologiques. Les Français déclarent ne pas avoir assez d'informations sur l'origine des produits à 51%. La réglementation en agriculture biologique, c'est insuffisant à 63%. Et les Français interrogés n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance dans les contrôles des produits biologiques à 63%. Vous la comprenez cette...
Non.
Confiance mitigée?
Non, parce que les Français doutent de tout, les Français râlent tout le temps. Et puis dès lors que quelque chose a du succès, il est immédiatement qualifié de douteux en France. Donc le bio, parce qu'il a du succès, parce qu'enfin il profite à tout le monde. Avant, faut quand même pas oublier que c'était un marché de niche de bobos écolo militants. Maintenant qu'il profite à tout le monde, forcément c'est industriel, c'est pas bien. L'origine du produit, elle est mise clairement. Il suffit de regarder un peu, de se pencher. Faut accepter de passer 3 secondes, en tout cas sur les produits frais. Il suffit de passer 3 secondes sur chaque produit. Ensuite, ben, on est bien obligé d'avoir confiance. La certification AB, il faut quand même pas oublier qu'elle est garantie par l'État et que les agriculteurs risquent très très gros si jamais ils ne la respectaient pas.
Christelle Pangrazi, les consommateurs ont-ils raison de ne pas avoir totalement confiance dans le bio ?
Non, alors je partage vraiment le propos de Frédéric. En fait, il y a une réglementation, il y a des codes, il y a des seuils tolérés ou pas. Donc, en fait, c'est très 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 encadré, très réglementé. Maintenant, c'est le bio peut mieux faire à différents endroits. Je pense par exemple en termes d'écologie, peut encore aller plus loin, et en termes de seuils aussi. Sur les seuils de résidus de pesticides, aujourd'hui, le bio est calé en fait sur les seuils du conventionnel. Et ça peut poser problème parce qu'on peut réellement être plus exigeant quand il s'agit d'aliments bio.
Frédéric Danhé.
Mais oui, en fait, encore une fois, les consommateurs plaquent sur le bio beaucoup de fantasmes. Mais le cahier des charges du bio ne peut pas, parce qu'il a été pris pour les 28 pays de l'Union européenne, c'est le plus petit dénominateur commun. Donc il s'est arrêté sur ce qui était facile à mesurer et à circonscrire à des chiffres, c'est-à-dire en gros les pesticides, les OGM, les antibiotiques, donc l'absence de tout ce que je viens de citer. Ensuite, il y a des objectifs, il y a des grandes intentions, effectivement, en termes agronomiques, sociales, éthiques, qui pour l'instant n'ont pas été adossés à des objectifs de résultats. On va y arriver peut-être, on en parlera sans doute dans cette émission, mais en tout cas le bio ne peut pas tout.
En tout cas, en termes d'écologie, on voit par exemple que le bio, dans les aliments qui sont importés, continue en fait d'utiliser par exemple de l'huile de palme. On la revendique...
Ah bah bien sûr.
Bah oui. On nous la revendique comme, ou le cacao, ou le café, qu'on nous revendique comme bio, comme... Et quelque part, quand le consommateur achète ce bio, il le voit aussi comme du bio qui est quelque part équitable. Et en fait, on sait aujourd'hui que, bio ou pas, la forêt est déforestée de la même manière pour produire de l'huile de palme, pour produire du café ou pour produire...
Mais le bio n'a jamais promis l'équitabilité.
Non,
c'est nous qui aimerions que le bio le soit, mais il ne l'est pas en soi.
Il garantit l'absence de pesticides. Mais effectivement, ça reste un problème. Parce que, quelque part, le consommateur achète aussi ça.
Il achète une promesse qu'on lui a pas forcément faite.
Quelle promesse ?
Il achète une promesse de vie longue, sans cancer. Il achète une promesse de planète épurée de toutes ces pollutions. Il achète une promesse de paysans bien payés. Il achète une promesse d'eau. Il achète une promesse de pureté, en fait. Mais ça n'est qu'une promesse et c'est impossible. C'est un idéal impossible à atteindre. En tout cas, avec la charte du bio telle qu'elle est. Il ne faut pas faire dire au bio ce que le bio n'a jamais dit, en tout cas dans sa charte.
Guillaume Coudray, bonjour. Vous êtes en ligne de Londres.
Bonjour Ali, bonjour Frédéric. Et
bonjour Guillaume.
Bonjour à tout le monde, oui.
Vous vouliez intervenir ?
C'est-à-dire que je pense que les charcuteries c'est-à-dire jambon, saucisson, lardon, toute une gamme de produits à base de porc. Il ne faut pas oublier que 70% du porc est mangé sous forme de viande transformée, c'est-à-dire de charcuterie, sont assez uniques. Et peut-être permettre d'illustrer la problématique dont vous parlez et d'illustrer le problème fondamental du bio aujourd'hui de façon particulièrement aiguë. C'est-à-dire que je crois que les charcuteries et l'application de la réglementation bio au domaine des charcuteries montrent les failles qui sont uniques dans le domaine alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve, et je pense que ça va surprendre pas mal de vos auditeurs, on se retrouve avec des produits conventionnels qui sont plus sains que les produits bio. Parce que, et ça rebondit sur ce que Frédéric était en train de dire, la charte bio a des intentions, sauf qu'elle a été souvent dévoyée. C'est-à-dire que, par exemple, les additifs cancérogènes, qui sont le nitrate de potassium et le nitrite de sodium, à l'origine... la charte, la réglementation bio européenne de 2008 prévoyait que ces additifs soient formellement interdits dans toutes les charcuteries bio. Ces additifs, ils servent à fabriquer les produits très rapidement, à leur donner une belle couleur, à minimiser les coûts, à faciliter toute la chaîne de production. Bon, donc c'était vraiment les experts européens du bio, d'un groupe qu'on appelle le groupe d'experts qui s'appelle les ECTOP, les groupes d'experts sur Organic Production, avaient écrit dans leur rapport, avaient dit à la commission, ça doit être interdit. Et l'industrie a poussé pour que ce soit autorisé. Et c'est une honte absolue, c'est unique. Et c'est pour ça que je voulais souligner, il y a, je pense, c'est difficile de parler du bio en général. Il faut pointer des éléments de la production bio où il y a des problèmes qui sont particulièrement graves. Et je crois, ce que je vois depuis plusieurs années où j'observe ce secteur de l'alimentation, toutes les gammes charcutières sont à proprement parler scandaleuses. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des additifs de synthèse, le nitrite de sodium, le nitrate de potassium, dont on sait qu'ils donnent naissance à des composés, ce qu'on appelle des composés néoformés cancérogènes. Personne ne peut en douter, personne ne peut le discuter. On sait parfaitement que ces additifs ne sont pas indispensables, qu'ils servent avant tout à ce qu'on appelle l'organoleptique, c'est-à-dire le visuel, la belle couleur, la conservation longue, etc. On sait qu'ils peuvent être enlevés. On sait que les experts, tous les transformateurs bio auxquels je parle, me disent oui, on peut le faire, on sait le faire, sauf que on ne le fait pas, parce que au niveau administratif, en France, l'application de la réglementation européenne est, on va dire, laxiste, bienveillant vis-à-vis de l'industrie, et on se retrouve avec un rayon charcuterie, jambon, lardon, bio en magasin bio, que ce soit dans la grande distribution ou dans les magasins bio, où les produits sont souvent, en fait, plus dangereux. Imaginez le scandale, plus dangereux qu'en conventionnel, là où parfois certains producteurs qui font bien arrivent à faire l'effort de se passer de ces additifs cancérogènes.
Guillaume Coudray, on reviendra tout à l'heure sur le cas des charcuteries industrielles bio. On verra ce qui a changé depuis la sortie de votre livre qui s'intitulait Cochonnerie. Frédéric Danhé, pour une minorité de consommateurs tout de même, le bio est une entourloupe marketing faite pour vendre des produits plus chers qu'ils ne l'étaient auparavant.
Non, c'est pas une entourloupe du tout. Le bio, c'est un engagement.
Moi, je l'entends parfois, ça.
Oui, mais tout ce qui a du succès est douteux en France de toute façon. Et puis, dire ça, c'est une excuse pour ne pas remettre en cause son mode de vie si tant est qu'on a envie de le faire. C'est pas une entourloupe. Produire en bio, c'est plus cher, c'est plus coûteux, il y a moins de rendement, ça coûte plus cher. Donc ça explique pourquoi c'est un peu plus cher. Et derrière tout ça, il y a quand même si c'est pas dans la charte, il y a une philosophie qui est respectée par les agriculteurs. Pour ça, je reviens un tout petit peu sur ce que vient de dire Guillaume. Dire que les produits, la charcuterie bio est moins saine que la charcuterie industrielle, la charcuterie conventionnelle sans nitrite, c'est un peu exagéré. Si on se focalise sur les nitrites, il a raison. Mais l'élevage,
c'est quand même un gros problème, les nitrites.
C'est un gros problème, certes, mais l'élevage des porcs en bio, c'est aussi le seul élevage qui garantit la bonne vie, la bientraitance des animaux, qui entretient des milieux. Ce sont des porcs qui n'ont pas été trop vaccinés, qui n'ont pas été trop gavés d'antibiotiques. Donc voilà, faut un peu raison garder. Sur le fond, il a raison, mais le problème, c'est pas celui du bio, c'est celui des industriels qui, derrière, pourraient retirer les nitrites, que le jambon soit bio ou pas, et qui ne le font pas. Mais on y viendra tout à l'heure.
Allez, n'hésitez pas à nous appeler au 0 45 24 7000. Faites-vous confiance au bio? Avez-vous peur de certaines dérives du secteur? Dans quel type de magasin achetez-vous bio? Vous pouvez également nous contacter sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Alexia Lacour et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve, et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite. La mère sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. De l'amour. Mes circuits sont niqués, puis y'a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. J'veux le feuilleton à la place. De l'amour.
Alain Bachung, Vertige de l'amour.
C'est pas du poulet, ça. C'est dans la batterie, ça. C'est bourré d'antibiotiques.
Ah non, c'est moins cher.
Grand bien vous fasse.
Oui, évidemment, manger bio, ça coûte plus cher. Mais au moins, t'es pas malade.
Sur France Inter.
10h23, comment acheter bio en toute confiance, standard ouvert au 01 45 24 7000.
Les analyses pour contrôler les taux de pesticides ne sont pas obligatoires dans la bio.
Mais la réglementation précise qu'on est dans le cadre d'une obligation de moyens et pas d'une obligation de résultat.
Il y a pourtant bien des prélèvements, mais ils sont rares. Selon lui, tous les 3 ans, chez ceux pour qui le contrôleur a des doutes, tous les 10 ans seulement, chez ceux en qui il a confiance.
Mais le consommateur peut se dire qu'on ne sait pas s'il n'y a pas de pesticides ou pas. Alors.
Mais on ne sait jamais ce genre de choses-là, hein, avec certitude. C'est nous, avec un œil d'expert, qui définissons en quelque sorte les zones où véritablement il y a un risque et auquel cas on accentue les prélèvements sur cette zone-là.
Pas d'obligation de résultat, des prélèvements qui peuvent sembler insuffisants. Voilà pourquoi même quand on paye plus cher, on n'a pas toujours la garantie de ne pas avaler de résidus de pesticides. C'est ce que révèlent les conclusions du rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, publié en juillet 2018. Elle fait apparaître que 15,6% des produits bio présentent des résidus de pesticides.
Extrait de Capital sur M6 cette année. Frédéric Danhé, vous faisiez la moue pendant la diffusion de cet extrait.
Oui, parce que si en plus il fallait que les agriculteurs payent des tests qui valent 300 à 400 euros l'unité, vous imaginez le surcoût pour le consommateur. Effectivement, les certificateurs vont vérifier le non-usage de pesticides interdits ou d'engrais interdits, c'est-à-dire issus de l'industrie, en regardant les factures. Et s'ils ont un doute, ils vont effectuer des prélèvements. Voilà, mais à 99%, les résultats sont sûrs. Et on trouvera de toute façon, partout où on cherche, des résultats. Enfin, les résidus, on est au picogramme, c'est-à-dire à la cuillère à café dans 2 volumes de piscine olympique. Voilà. Alors après, vous pouvez toujours dire, c'est le syndrome de l'homéopathie, vous pouvez toujours dire que ça va agir sur le long terme. Il n'y a pas de démonstration scientifique. Il arrive un moment, il faut mettre un seuil à partir duquel on doit se rassurer.
Quelles sont les obligations du cahier des charges du bio? Ce sont des obligations de moyens et pas de résultats?
Oui, ce sont des obligations de moyens et pas de résultats. C'est-à-dire que vous devez fournir la preuve que vous n'avez pas utilisé de produits qui sont interdits. Vous devez faire un assolement des sols. Vous devez moins travailler les sols, vous devez globalement laisser de l'espace à votre bétail, de façon à respecter la philosophie de la bio qui est celle de travailler avec la nature. Mais il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'indicateurs chiffrés qui permettent de constater que des résultats ont été obtenus, c'est vrai.
Beaucoup de questions sur le label Bio AB. D'où vient ce fameux logo qui est né en 1985 et c'est un décret du 10 mars 1981 qui définit donc le cahier des charges du bio.
Et voilà, alors ça c'est une histoire ancienne, on ne reviendra pas sur l'histoire un peu nauséabonde du bio dans
Pourquoi
ses origines. Ah bah parce que le bio, le mouvement bio est né dans les mouvements fachos des années 30, clairement. Voilà. Jusque dans les années 40, les principaux zélateurs du bio étaient des antisémites, anti-républicains, puis ensuite voilà, ils ont pris leur retraite. On est arrivé à la fin des années 60, début des années 70, porté par Nature et Progrès, par l'identification d'une philosophie de la bio, d'une proposition de charte qui n'était pas acceptable 15 ans plus tard par l'Europe, parce qu'elle était trop complexe, parce qu'il y avait trop de différences entre les pays. Et donc on a abouti à ce plus petit dénominateur commun qu'est la charte de la bio. Au départ, le label AB était français, ensuite ça a été étendu à l'Europe en 2001 ou en 2002, et ça vient d'être réécrit en partie, et il y aura une autre réécriture l'an prochain.
Et le bio est encadré par deux règlements européens du 1er janvier 2009.
Oui, c'est ça, et puis ils viennent d'être réécrits pour certaines productions. Encore une fois, c'est un plus petit dénominateur commun. On essaye de tenir compte de toutes les spécificités, c'est ça aussi l'Europe, mais le socle commun, c'est alors le respect, mais qui reste un peu théorique, le respect de la nature si on veut, mais surtout le socle absolu, c'est l'interdiction, enfin la quasi-interdiction des pesticides dits de synthèse et des engrais dits de synthèse et des antibiotiques, des OGM, etc. etc.
D'autres labels bio privés existent, je cite Biocohérence, Nature et Progrès, Déméter, c'est un label privé de biodynamie. Qu'est-ce qu'ils valent ces labels? Et qu'est-ce que ça apporte par rapport au label officiel AB ou bien la fameuse feuille verte?
C'est le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le crémier ça, et ses enfants jusqu'à... Voilà, c'est le bio dans sa philosophie. Nature et Progrès, le label Nature et Progrès, les magasins Nature et Progrès, ils sont les seuls, donc on est bien obligé de les citer. C'est le bio dans toute sa philosophie qui respecte à peu près tout, voilà, qui respecte le paysan, les sols, les haies, les animaux, etc. Ensuite, on a Déméter. Là, c'est le bio à l'horoscope, hein. C'est le bio en pensant aux astres et aux énergies, donc vous y croyez pas, mais c'est la philosophie de la bio avec...
C'est ça la biodynamie?
Bah oui, vous tournez autour d'un boulot en plantant des cornes de vache, et oui, enfin voilà, vous y croyez pas, mais retirez ça à l'i et vous avez le bio dans sa philosophie originelle. Biocohérence, c'est la charte de la bio plus des critères d'éloignement, de circuits courts, etc. etc. Si vraiment on veut être canal historique, faut aller vers Nature et Progrès ou Déméter. Si vraiment on a besoin d'être assuré, on prend le label bio sur l'étiquette et puis on regarde s'il y a une mention équitable comme il y a dans la chaîne de magasins Biocoop.
On s'y perd un peu, Christel Pangrasi de 60 millions de consommateurs, hein, entre ces labels officiels, les labels bio privés.
Oui, c'est sûr que c'est pas facile pour le consommateur de faire le tri, mais comme le disait Frédéric, le label AB est déjà une bonne garantie pour le consommateur qui veut acheter en ayant une absence de pesticides.
Guillaume Coudray, journaliste.
La question, c'est que là, aussi bien Frédéric que Christelle nous parlent des pesticides. Or, il faut comprendre. Tout à l'heure, Frédéric disait, les agriculteurs ou les éleveurs, en l'occurrence, hein, pour tout ce qui concerne la viande, font des efforts énormes pour fabriquer, pour faire grandir, par exemple, un cochon bio. Et c'est vrai. Imaginez la difficulté pour faire, par exemple, la transition, pour passer d'un élevage conventionnel à un élevage en bio. Ça demande des efforts, un engagement, des investissements qui sont très importants de la part de l'agriculteur et de la communauté, souvent ils sont en collectivité, etc. C'est des efforts considérables parce que au niveau génétique, au niveau de l'alimentation, au niveau du lien au sol, ce qu'on appelle le lien au sol en bio, c'est vraiment important, c'est beaucoup plus compliqué de faire grandir et d'abattre, de nourrir et puis d'abattre un cochon en bio plutôt qu'en conventionnel. Donc c'est une viande qui est nettement de bien meilleure qualité à tout point de vue. Mmh. C'est-à-dire qu'en bio, la viande fraîche de cochon, par exemple, une côte de porc bio, est nettement, il y a une vraie différence en termes de composition par rapport, et en termes de santé, par rapport à la même côte de porc en conventionnel. Mmh. Mais ce qu'il faut comprendre, Ali, et ce qu'il faut que vos auditeurs saisissent, et je pense qu'il y a de quoi être furax, vraiment furax, c'est que cette viande de porc qui a été élevée, donc le cochon a été nourri dans des conditions particulières, avec de tourteaux de soja bio, c'est compliqué, on l'abat dans des abattoirs qui sont homologués bio, puis on le transporte, et puis on l'amène à l'usine, et puis là, hop, vient le moment où on va le donner à manger aux gens, on va le donner à manger aux enfants, par exemple, on va en faire des saucisses, on va en faire du saucisson, du jambon que les mamans et les papas vont donner à manger à leurs petits derniers. Eh bien, imaginez qu'au dernier moment, cette viande super qualitative, bio, hautement nutritive, meilleure à tout point de vue, eh bien, on l'injecte non pas de pesticides, mais d'insecticides. Le nitrate et le nitrite sont des insecticides qui permettent de favoriser la couleur, la longue conservation. Il faut bien penser que ça va entre doubler et tripler la durée de conservation. Ce sont des additifs de synthèse qui sont dangereux. Imaginez le scandale de mettre ça dans de la nourriture bio. Mmh. Pourquoi mettre ça alors que c'est superflu? Et c'est là où je veux insister. C'est unique. Il n'y a pas d'autres secteurs dans le bio, dans toute l'alimentation bio, où on retrouve comme ça une sorte de dichotomie complète, ou plutôt d'absence de différence avec le conventionnel, d'absence de dichotomie, d'absence d'intérêt qualitatif. Or, le consommateur, il va en confiance, comme le dit Frédéric. On a comme ça toutes sortes de projections qui sont largement vraies, parce que sur la plupart des produits, c'est vrai que sur une pomme, une tomate, une banane, même du café, il y a une vraie différence. Et donc le consommateur, il est habitué à ça. Il est prêt à payer un peu plus, souvent même beaucoup plus. Il arrive, il pense que quand il est au rayon charcuterie, c'est pareil, il y a une sorte de sécurité, et non.
Ouais.
C'est unique, il n'y a pas d'autres produits dans un magasin bio où il y a vraiment une absence de respect des principes fondamentaux de la bio, qui sont en particulier, on ne met pas d'additifs de synthèse, de pesticides de synthèse.
On a bien compris, Guillaume Coudray. Avec nous au téléphone, Anaëlle, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Bordeaux. Alors vous, vous animez un blog qui s'appelle La Révolution des Tortues, un blog dédié à l'écologie et à la consommation responsable. Est-ce que vous faites confiance au bio?
Bonne question. Effectivement, moi, je passe pas par le supermarché pour acheter bio, parce que donc j'ai lu le cahier des charges de la bio, je sais ce que ça garantit, et moi, je suis pas, comment dire, je suis pas concernée uniquement par le fait qu'il n'y ait pas de pesticides de synthèse dans mon alimentation. J'ai aussi envie que la culture respecte les sols, que ce soit pas de la monoculture, etc. Du coup, j'ai testé plein d'autres solutions que le supermarché pour acheter bio. J'ai testé les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il y a les magasins de producteurs qui sont super, en fait. Donc les producteurs vendent directement dans un magasin leur propre production, donc ça permet quand même de nous rapprocher de ces gens-là et de discuter, de savoir dans quelles conditions les produits sont faits. Après, en solution qu'on peut tester, il y a la vente directe à la ferme, évidemment, mais dans certaines communes, il y a des drives fermiers. C'est-à-dire que pour des urbains qui peuvent pas se rendre jusqu'à la ferme, ils commandent en fait chaque semaine leurs produits, et il y a un point de retrait parfois accessible depuis une rocade, etc., ou parfois en centre-ville, où ils peuvent venir retirer leur production, mais qui vient directement de chez des fermiers du coin.
Est-ce que vous vous rendez dans des AMAP, Anaëlle? Est-ce que vous vous rendez dans des AMAP?
Alors les AMAP, moi c'est une solution que j'ai testé très brièvement, parce qu'en fait, les AMAP, il y a des gens à qui ça convient et d'autres non. Moi, à l'époque où je l'ai testé, j'étais célibataire et j'avais un boulot qui était très très prenant. Donc les AMAP, il y a généralement qu'un seul créneau dans la semaine pour aller chercher son panier. Et si on le rate, le panier est perdu. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'en termes de coût et de lien au producteur, il n'y a pas mieux que les AMAP. Enfin, on est vraiment en direct, il y a zéro intermédiaire, et ça permet vraiment de discuter avec la personne qui produit. C'est sûr que c'est génial, mais c'est pas une solution qui peut convenir à tout le monde. Enfin, d'ailleurs, aucune ne peut convenir à tout le monde. C'est pour ça qu'il y en a plein et que c'est intéressant. Et après, moi, celle dont je voulais parler, c'est ce que je fais actuellement. En fait, je fais partie d'un supermarché coopératif. Donc, je peux peut-être définir ce que c'est.
En quelques mots, Anaëlle.
Alors, en gros, tous les clients sont propriétaires du magasin, et chacun donne 3 heures de son temps chaque mois, enfin toutes les 4 semaines exactement, pour faire fonctionner le supermarché. Ce qui fait que alors moi, c'est Supercoop à Bordeaux, et ce qui fait que pour 1000 coopérateurs, en fait, il n'y a que 2 salariés. Et on a accès à des produits majoritairement bio et locaux, à des tarifs qui défient toute concurrence pour cette qualité de produits-là. Et en fait, les produits sont sélectionnés par des gens qui sont consommateurs de Supercoop comme nous. Donc moi, je sais qu'en termes de confiance, je suis beaucoup plus rassurée d'acheter là, parce que bah, les produits sont plus frais, ils viennent de près, ils ont été choisis par des gens qui sont allés visiter les exploitations. Mmh. Je trouve, en termes de confiance, moi je me sens beaucoup mieux.
Merci beaucoup Anaëlle pour votre témoignage. Frédéric Danet, beaucoup de questions sur le prix du bio. Certaines enseignes spécialisées pratiquent tout de même des prix parfois jugé prohibitif.
Ben oui, le bio, de toute façon, de par ses conditions de production, sera plus cher. Après, certaines enseignes, ben justement, appliquent ceinture et bretelles, c'est-à-dire on vous vend du bio, mais on vous garantit que le paysan sera bien payé. Un paysan bien payé va travailler correctement, donc forcément, c'est plus cher. Le bio ne peut pas être pas cher, c'est quasiment impossible, en dépit de sa banalisation. Ce que vient de dire l'auditrice est très intéressant, je sais pas si, voilà, j'en parle beaucoup dans mon livre, faut que jamais oublier que la bouffe, l'alimentation, c'est d'abord des produits frais, c'est d'abord du lien social, c'est ça manger, le lien social, on le cultive dans les circuits courts, qu'il soit bon ou mauvais, c'est d'abord ça, et c'est fondamental, bien plus que le bio.
Thibaut de Saint-Maurice, quelle réflexion philosophique vous inspire notre thème ce matin?
Mais Alice, je me dis qu'une des manières d'acheter en confiance, donc, des carottes bio ou du miel de bruyère blanche, par exemple, celui des miellets de Catherine Hérault, aux Truelles, en Aveyron, qui me régale tous les matins, eh bien, c'est évidemment d'en payer le juste prix, on vient de le dire. Parce que la méfiance, elle peut naître d'un doute sur la qualité, oui, mais elle peut aussi naître d'un doute sur le prix auquel c'est vendu. Et même au-delà de l'alimentation, pour les vêtements, pour vos t-shirts, Ali, pour une voiture, un téléphone, bref, pour tous les achats qu'on fait tous les jours, quels sont les justes prix? Et puis, est-ce que même un prix peut être juste? Parce que les intérêts d'un vendeur et ceux d'un acheteur sont a priori contradictoires. Pour le vendeur, le prix pourrait toujours être un peu plus haut, et pour l'acheteur, parce que le prix devrait être toujours un peu plus bas. Et je vous parle même pas des périodes de soldes où on a l'impression que les prix ne veulent plus rien dire et que le juste prix d'hier n'était pas si juste que ça.
Alors Thibaut, qu'est-ce qu'un juste prix?
Eh ben, on peut essayer de le définir, et pour ça, il faut, je crois, commencer par éliminer des options. Par exemple, le juste prix ne dépend pas de l'utilité. Une baguette de pain, c'est très utile et ça n'est pas très cher. Et à l'inverse, une montre en or, ça n'est pas plus utile qu'une montre en plastique et pourtant c'est bien plus cher. Deuxièmement, le juste prix ne dépend pas non plus de la quantité de travail ou de la pénibilité du travail qui a été fourni pour produire le bien. Sinon, les agricultures bio et les mineurs de fonds seraient bien plus riches que les footballeurs. Alors, ça va vous paraître peut-être inattendu, mais on peut trouver une piste intéressante chez saint Thomas d'Aquin. Voilà, grand philosophe, grand théologien du Moyen-Âge et référence classique sur cette question du juste prix. Thomas d'Aquin s'inspire d'Aristote pour essayer de penser les critères du juste prix. Pour Thomas d'Aquin, il y a deux critères essentiels. Il faut que le prix soit raisonnablement profitable pour l'une et l'autre des parties. Mais il faut aussi que ce prix soit raisonnable pour le bien commun. En clair, ça veut dire qu'un juste prix doit aussi être un prix juste. C'est-à-dire un prix qui n'est pas seulement ajusté aux intérêts du vendeur et de l'acheteur, mais aussi adossé à un souci de la justice pour tous. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement s'appuyer sur l'offre et la demande, ou sur l'accord des parties, il faut aussi se soucier des conséquences du prix sur le bien commun. Par exemple, un prix trop bas peut entraîner une surconsommation et donc un déséquilibre écologique. C'est ce dont on est un peu en train de se rendre compte avec les grandes chaînes de prêt-à-porter. Mais un prix élevé, pour de bonnes raisons économiques, peut par exemple lui être injuste vis-à-vis du bien commun. C'est par exemple le cas du prix de certains médicaments pour des maladies rares. Alors le juste prix, c'est un prix équitable pour l'acheteur et pour toute la chaîne de production, mais avec Thomas d'Aquin et son critère du bien commun, c'est aussi un prix qui doit être juste au sens où il doit profiter à tous, même à ceux qui ne sont pas directement concernés par l'achat. C'est pour ça que l'économie doit rester politique et qu'on ne peut pas juste laisser faire. Au moment de passer à la caisse, finalement, on n'est jamais, jamais tout seul.
La petite philosophie de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice est à voir en vidéo sur notre page Facebook. Allez, dites-nous si vous achetez bio en toute confiance, 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alani interprété Differently.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
10h43, comment acheter bio en toute confiance, 01 45 24 7000.
Si Carrefour nous demande une référence, il faut qu'on puisse lui envoyer un camion chaque jour. 10, 15 palettes de tomates. L'année dernière, on a fait 60 millions de paquets. 60 millions d'unités. À cette saison, en avril, on est déjà à 8 millions de barquettes.
Un volume de production inattendu pour l'agriculture biologique, qui prône de produire peu, mais différentes variétés de légumes pour ne pas épuiser la terre. Mais pour ce patron d'entreprise, c'est le prix à payer pour rendre le bio accessible à tous.
Il faut oublier cette idée selon laquelle le bio, c'est un agriculteur avec un sombrero, un petit producteur qui travaille la terre. Ça, c'était avant. Il y a 300 millions de personnes en Europe. Même si tous n'ont pas les moyens d'acheter bio, il y a au moins 40 millions de personnes qui le peuvent. On doit leur fournir des produits bio de la façon la plus professionnelle et la plus industrielle possible.
Extrait du documentaire La face cachée du bio low cost en 2016. Alors, comme la production bio française peine à suivre à cause de son immense succès, nous importons près d'un tiers de produits frais bio. Comment s'assurer que l'on a affaire à des produits qui respectent un cahier des charges strict, Christelle Pongrazy de 60 millions de consommateurs?
Alors généralement, les produits bio importés doivent respecter le cahier des charges.
Quel cahier des charges ?
Le cahier des charges européen et le cahier des charges français. On peut pas importer, on peut pas faire venir des bananes du Costa Rica, du Pérou, je ne sais d'où, si elles ne sont pas bio au sens où l'Europe et la France l'entendent. Donc il faut pas fantasmer en se disant ça vient de très loin, c'est pas bio. Si c'est bio, en revanche, c'est pas écolo. Voilà.
Frédéric Danhé, l'auteur d'Acheter Bio, à qui faire confiance?
Oui, alors sur les 30% de produits qu'on importe, la moitié sont des produits qui ne poussent pas en France. Donc on est obligé de les importer. Par contre, nul n'est obligé d'acheter des poires. J'en ai vu l'autre jour, des poires largement emballées qui viennent du Chili. Je rappelle que les poires poussent aussi en France. Effectivement, les critères sont les mêmes. Après, le bio n'est pas le même partout, eu égard aux conditions sociales, eu égard aux conditions écologiques. Mais rien que les conditions sociales, acheter du bio en Espagne, c'est un non-sens. Quand on voit par qui c'est produit, par qui c'est récolté, par des quasi-esclaves venus du Maroc, d'Irak, du Mali, du Niger, pas déclarés, qui se font taper dessus s'ils ne travaillent pas correctement. Là, il faut boycotter ce bio. Et moi, j'en reviens à ça. Si on veut acheter du bio, achetez le français.
Dites-nous clairement si l'on doit acheter du bio venu de très loin. Doit-on acheter de l'ail bio d'Argentine, des pommes Royal Gala bio en provenance du Chili?
Là, j'ai deux réponses. La première, de mon point de vue, non, c'est une aberration. Je me mets dans, du point de vue maintenant du consommateur qui n'a pas forcément les moyens. Oui, pourquoi pas? Parce que je vois pas pourquoi les gens qui n'ont pas les moyens ne pourraient pas acheter du bio, même si, c'est de l'ail qui vient de Nouvelle-Zélande. D'où ça dessine un bio à deux vitesses, de toute façon.
C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire un bio canal historique, un bio qui respecte tout, qui sera forcément cher parce que produit en France, et puis un bio qui, par sa banalisation, profitera heureusement à tout le monde et viendra forcément d'autres pays.
Oui, mais demain, quand la demande de bio sera encore plus forte, les centrales d'achat achèteront massivement à l'étranger, dans des pays où les contrôles sont parfois réduits au strict minimum, voire quasi inexistant.
Ben évidemment, ça, de toute façon, c'est la logique de la grande distribution. La grande distribution ne fonctionne que là-dessus, sur le racket des paysans. Oui, on arrive vers ça. Déjà, ça commence en France. La grande distribution, qui avant n'osait pas le faire, commence gentiment mais sûrement à négocier les prix avec les producteurs et les transformateurs. Alors, ça dépend des chaînes de distribution, mais la logique reste la même. C'est d'acheter des grands volumes pour vendre au prix le plus bas.
L'an dernier, Christelle Pangrazi, 60 millions de consommateurs a testé 74 produits d'épicerie. Quels sont les principaux produits d'épicerie importés? Évidemment, le café, oui. Le chocolat.
Oui, on a testé. Donc effectivement, il y a le café, le chocolat, l'huile d'olive, le miel, le riz, le quinoa, le sucre de canne. Voilà, je crois que je vous ai tout dit.
Quels sont les produits d'épicerie bio importés que l'on peut acheter en toute confiance? Dans le test de 60 millions de consommateurs, le sucre de canne obtient d'excellents résultats.
Oui, alors le sucre, effectivement, figure parmi les produits bio qui sont les plus sûrs. Ils ont tous obtenu quasiment la note de 17 sur 20. Mais globalement, restons mesurés, hein, les produits bio, dans leur grande majorité, parmi toutes les études que nous avons faites à 60, obtiennent de meilleurs résultats et même de très bons résultats par rapport aux produits conventionnels en termes de pesticides ou de substances qu'on peut considérer comme nocives.
Nous autres consommateurs, Frédéric Danhé, est-ce qu'on a les moyens de repérer la fraude qui peut frapper certains produits bio importés? Est-ce qu'on a les moyens ou on doit faire aveuglément confiance aux magasins spécialisés en l'occurrence?
Ben oui, on est bien obligé de faire confiance. À ça que servent les organismes certificateurs. Hein, on leur délègue notre confiance. Après, si vraiment vous avez peur, contentez-vous des produits de l'Europe du Nord, dont la France. En particulier, France, Allemagne, Autriche, c'est quasiment les plus sûrs. Enfin, c'est pas quasiment, ce sont les plus sûrs. Parce que l'agriculture qui s'y fait, les agriculteurs bio respectent vraiment une philosophie parce que c'est compliqué de se mettre au bio et on risque gros à ne pas respecter la certification. Donc restez sur les pays d'Europe du Nord.
Monica Brèze en a marre de ces émissions qui tentent de discréditer le bio. Mais non. Manger bio, c'est mieux pour la planète et pour la santé. Il n'y a rien à ajouter. Bah si, on a le droit d'éclairer nos auditeurs sur certaines dérives. Quelles sont les principales dérives du bio qui frappent le bio?
Alors en fait, il n'y a pas de dérive par rapport au cahier des charges. Il y a des dérives par rapport à notre frustration, par rapport à nos envies, à tout ce que l'on plaque sur le bio. Les dérives que l'on voit, encore une fois, qui n'en sont pas dans le cahier des charges, c'est des dérives sociales. C'est anormal qu'aujourd'hui, par exemple, la grande distribution commence à négocier des baisses de prix de 5, 6, 7% avec les agriculteurs bio. C'est anormal qu'un produit bio, hors saison, soit mis à pousser sous des serres chauffées en Norvège. Et en même temps, vous répondra, oui, mais sans ça, les Norvégiens ne boufferaient pas de tomates. Dans la philosophie de la bio, c'est pas normal aussi d'acheter des patates en Ukraine sur des champs qui font 40 km de long, où il n'y a pas une haie, il n'y a pas un arbre, et où l'assolement, c'est-à-dire la rotation des cultures qui est censée être obligatoire, ne se fait pas.
Ou d'avoir des produits bio suremballés dans du plastique.
Ça, c'est aberrant. C'est complètement aberrant. Mais en même temps, la grande distribution vous dit, oui, mais c'est pour strictement séparer les choses, parce que sinon les gens vont se tromper sur la balance. Cela dit, c'est pire en Suisse. En Suisse, c'est tous les produits, chaque pomme, chaque courgette, chaque radis est emballé. C'est même pas la botte.
Bonjour Hélène, vous appelez d'Annecy. Alors vous faites plutôt confiance au bio.
Excusez-moi,
vous faites plutôt confiance au bio, Hélène.
Alors, moi je fais confiance aux matières premières bio. Je fais vraiment une grande différence en tant que nutritionniste. Entre les matières premières, qui sont à mes yeux effectivement bien plus intéressantes que les conventionnelles, elles sont beaucoup plus riches au niveau nutritionnel. Et puis bien sûr qu'il y a une réduction des produits chimiques. On ne peut pas viser l'absence totale. Elle n'est pas garantie, mais il y a quand même une très nette réduction. Par contre, je mets dans le même sac les produits transformés, qu'ils soient en bio ou en conventionnel. Et je voulais signaler qu'il existe une application qui a été mise au point par l'équipe d'Anthony Fardet, que vous connaissez bien, qui à mes yeux bien mieux que Yuka, parce qu'elle va classer les produits selon leur degré de transformation, justement.
Comment s'appelle cette appli?
SIGA.
Cette application s'appelle Scanup.
Ah oui, Scanup, et c'est la société, c'est SIGA, oui.
Voilà. Et Et pour moi, ça va vraiment aider. Ça va vraiment aider à revenir un maximum au fait maison, avec des matières premières qui soient les plus fraîches possibles, donc les plus locales possibles, et les moins chargées, bien sûr, en produits chimiques, donc bio si possible. Mais moi, j'arrive à préconiser plutôt le frais et local en conventionnel que le bio de l'autre bout de l'Europe ou du monde, c'est sûr.
Frédéric Danhé, merci beaucoup à Hélène pour votre coup de fil. Vous, vous êtes assez sévère, et on le comprend, avec les produits ultra transformés bio. Pour vous, c'est une aberration?
Bah, c'est une aberration. Alors certes, dans les produits bio, dans la charte de la bio, il y a 50 additifs et non pas 300, certes, mais la plupart des produits ultra-transformés sont des produits ultra-transformés, c'est-à-dire des tas de sucre emballés dans du gras. Anthony Fardet, que vous avez reçu, a eu bien raison de porter l'alerte là-dessus. Effectivement, j'en parle beaucoup dans mon livre, son indicateur va très loin et bien plus discriminant que Yuka, qui au demeurant fonctionne très bien. Non, la raison, acheter un produit ultra-transformé bio, je vois pas l'intérêt.
Guillaume Coudray, j'aimerais qu'on revienne sur ces charcuteries industrielles qui contiennent des sels nitrités. Je rappelle que le 12 octobre 2015, le Centre international du cancer, qui dépend de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a classé les charcuteries en catégorie 1, c'est-à-dire cancérogènes pour l'homme, à cause de ces additifs que sont le nitrite de sodium, E250, et le nitrate de potassium, E252, également appelé salpêtre. Depuis la sortie de votre livre « Cochonnerie », qui s'attaquait donc à la charcuterie industrielle, qu'est-ce qui a vraiment changé? Est-ce qu'il y a eu des avancées, Guillaume Coudray?
Il y a des avancées. Il y a des avancées qui sont faibles et qui sont discrètes, parce que ça veut dire aussi que le consommateur doit s'habituer à des produits qui, d'un point de vue visuel, sont un peu différents. Là, je parle du jambon cuit. La couleur du jambon cuit sans additifs nitrés. Tout à l'heure, j'ai employé, pour aller vite, le mot insecticide. Il a peut-être pu choquer un petit peu. Ce sont des biocides. Hein. Mm-hmm. Biocides serait le mot plus exact. Bon, et en même temps, colorant. Bon, ce qui a changé, vous savez, par exemple, 2017, Biocop a mis une référence en ligne, dans ses rayons, d'un jambon fabriqué dans une usine en Bretagne, donc on est en bio, avec du cochon bio. La même usine fabrique à la fois du jambon cuit, hein, du jambon type Paris, en bio, avec nitrite, et le même en bio, sans nitrite. Bon, c'est une seule référence chez Biocop. J'ai appris il y a quelques jours que Fleury Michon, qui vient de lancer il y a trois semaines en fait, une gamme qui s'appelle Zéro Nitrite, qui est vraiment remarquable. Hein. J'ai souvent été critique vis-à-vis de Fleury parce que je trouvais qu'ils exagéraient un peu sur certains additifs. Là, je ne peux que les féliciter. Il y a un effort fabuleux. Une gamme donc Zéro Nitrite qui a été lancée.
Également en bio.
Et qui va sortir, donc, il sort une nouvelle référence en bio, qui va être d'abord distribuée, d'après les informations que j'ai récupérées hier, qui va être distribuée d'abord chez Auchan, chez Cora, chez Magasin U, et puis en espérant que le consommateur comprenne, parce qu'il faut un vrai effort de pédagogie, il faut que le consommateur comprenne bien que la couleur du jambon cuit, eh bien, elle est plutôt marron grisâtre.
Question très simple, Guillaume Coudray, question très simple, doit-on acheter des charcuteries bio qui contiennent des sels nitrités, ou préférer des charcuteries conventionnelles sans nitrite?
Aucune hésitation à cette réponse. Absolument choisir le conventionnel sans nitrite. Exemple, la saucisse de Morteau. Une usine commence à fabriquer de la saucisse de Morteau conventionnelle sans nitrite. Absolument choisir celle-là plutôt que la bio-nitritée. Pareil pour le jambon sec. Vous pouvez aussi vous tourner vers, par exemple, des marques type Bio-Verdé qui ont du saucisson, du jambon sec, etc. Tout ça sans nitrite. Mais si vous ne trouvez pas, choisir le conventionnel sans nitrate, sans nitrite, moins cher, bien meilleur pour la santé.
Frédéric Danhé.
Moi, je vais chez mon boucher parce que j'ai confiance. Les Fleury Michon, c'est vrai, font des efforts sur la gamme sans nitrite. Ils se heurtent d'ailleurs à certaines enseignes de la grande distribution qui n'en veulent pas parce que sans nitrite, la date limite de consommation est de 8 jours et pas de 21 jours.
Vous avez cité Fleury Michon, il faut citer Herta, Madrange.
Herta aussi sorti une gamme,
pas
les mêmes problèmes.
De problème avec le CSA. Dans votre livre, Frédéric Danhé, vous êtes assez sévère avec les hypermarchés. Vous déconseillez d'aller dans des hypermarchés pour acheter du bio, mais comment on fait quand on n'a pas de magasin spécialisé, que c'est beaucoup trop cher? À juste titre d'ailleurs.
Je déconseille d'aller dans les hypermarchés en général, parce que j'aime pas les hypermarchés, c'est purement personnel, notamment une certaine chaîne. Mais je reconnais que dans beaucoup d'endroits, il y a plus que les hypermarchés où les gens peuvent aller. Non, allez-y, parce que de toute façon, ils sont en train de changer. Eux aussi font du bio, aussi font du sans nitrite, font du label rouge. On peut pas faire autrement. malheureusement.
Et que pensez-vous des grandes enseignes qui pratiquent le greenwashing, c'est-à-dire qui se refont une virginité en reverdissant leur communication et leur rayon, Christelle Pangrassi, qu'est-ce que vous en pensez?
Nous, évidemment, on ne fait que condamner.
À 60 millions de consommateurs.
À 60 millions de consommateurs, évidemment, on ne fait que condamner ça. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les rayons bio, justement de ces hypermarchés, on trouve des paquets de gâteaux qui ne sont pas bio, mêlés à tout ça. Les diététiques se mélangent avec le bio, en se faisant passer pour du bio. Donc, voilà, n'est pas bio qui veut.
Dernier conseil pour acheter bio sans se tromper, en toute confiance, Frédéric Danhé, en prenant exemple sur votre exemple de père de famille nombreuse qui habite en banlieue parisienne, en grande banlieue parisienne.
En grande banlieue parisienne.
Conseil de base.
Conseil de base. Oubliez le bio dans un premier temps. Achetez des produits frais, si possible, à un producteur. Vous poserez ainsi les bonnes questions sur votre régime alimentaire et arrivez progressivement au bio, mais un bio, allez, français, celui-là.
Local. De saison.
Local. De saison. Alors déjà, de saison. Achetez frais. Achetez de saison. Ensuite local, et enfin vous pouvez vous poser la question du bio, mais il ne faut jamais oublier que la nourriture c'est d'abord du plaisir, du local, du frais et du lien social. Ayez face à vous un producteur.
Christelle Pangrassi, conseil de 60 millions de consommateurs.
Pour acheter bio, moi je...
En confiance.
En confiance, il faut se fier au label et on peut, comme le disait Frédéric, acheter local, c'est très bien aussi.
Merci beaucoup Frédéric Danhé, Acheter bio, à qui faire confiance est publié chez Albin Michel. Christelle Pangrassi, le hors-série actuel de 60 millions est consacré, dites-nous-le, donnez-nous le titre.
Alors le hors-série actuel s'appelle Maison saine nettoyée sans polluer et il est consacré aux produits ménagers qu'on utilise au quotidien et qui polluent notre maison au lieu de l'assainir.
Merci Guillaume Coudray, Cochonnerie est disponible à la découverte. Demain, on se demande si une vie intense rend heureux. Nous recevrons les philosophes Tristan Garcia et Frédéric Schifter. Et vous, c'est plutôt une vie vécue à 10 000 volts hein, comme Thibaut de Saint-Maurice ou une vie calme qui vous rend heureux. 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Philippe Duclos et Kevin Pelot.